Voilà, bonjour à tous. J'espère que ce n'était pas trop dur de se lever ce matin. Alors moi, c'est le Père Joël, tout simplement. Alors, vous remarquez, voyez, vous avez plus en face Saint Thérèse de l'Enfant Jésus que moi, vu que je suis tout petit, ben, c'est tant mieux. Et ce n'est pas une blague de vous dire que je suis le plus petit prêtre de mon diocèse, 1m62. Donc, tout y est pour être un pur produit de Thérèse. Et je viens encore d'un tout petit pays, la Suisse, évidemment. Je vais essayer de ne pas trop laisser chanter mon accent, mais je pense que ça sera impossible. Je suis né au pied des 4000, dans cette région qu'on appelle le Valais, qui jouxte avec Chamonix. J'ai été curé pendant 30 ans. Et un jour, notre nouvel évêque, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, il est venu me dire « J'ai besoin de toi comme supérieur de notre séminaire. » Je me suis dit « Il doit se tromper de candidat. » Et j'ai senti comme une voix qui disait en moi « Dis oui ». Alors j'ai dit oui parce qu'il m'a dit « J'ai pas besoin d'un intellectuel, j'ai besoin d'un pasteur ». Alors comme je suis plus intellectuel qu'intellectuel, j'ai dit alors « Ok ». Et ça me convient bien. Et pour la petite anecdote, il y a, ça fait maintenant la quatrième année que je suis responsable, il y a deux ans comme ça, une petite sœur très charismatique, vous savez comment ils sont les charismatiques, ils sont tellement bourrés d'Esprit Saint qu'ils nous disent de belles choses. Je lui pose la question, je ne sais pas pourquoi le Seigneur finalement est venu me chercher pour aller au séminaire, je ne suis même pas docteur. Alors il y a un docteur au séminaire en théologie, alors moi je lui dis toujours, toi tu es docteur, moi je suis infirmière. Parce que j'ai toujours mon tampon de ouate bourré de mercurochrome. Les jeunes qui rentrent là-dedans avec leurs blessures, il faut bien une infirmière quelque part, quoi. Alors, je joue très bien mon rôle de ce côté-là. Et la petite sœur m'a dit, ben, je vais te dire pourquoi le Seigneur t'a choisi pour être au séminaire. C'est parce que tu es le plus petit et le plus pauvre de tout le diocèse pour que les jeunes n'aient pas peur de voir leurs blessures. Et j'en ai été convaincu. Et depuis, je n'ai plus douté. Et c'est un petit peu ce que je voudrais vous dire à travers ces enseignements, c'est que nos blessures, c'est ça qui est beau, sont un lieu de rencontre avec Dieu. Quand saint Paul dit « Je peux tout en celui qui me rend fort », quand je suis faible, c'est qu'alors que je suis fort, il faut bien comprendre, hein, la toute faiblesse est la condition pour laisser entrer Dieu. C'est la petite faille à travers laquelle Dieu peut entrer dans nos vies, mais pour nous rendre forts. Pour nous rendre forts, c'est-à-dire pour qu'on ait cette volonté d'aller jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de notre appel, jusqu'au bout de notre vocation. Alors je vous raconterai une petite anecdote, puisque j'étais soignant, j'étais infirmier avant d'être prêtre, notamment en psychiatrie. Et dans les hôpitaux, j'ai fait deux expériences, deux observations assez étonnantes. D'abord, on m'a mis... Première expérience dans un service de psychogériatrie avec des personnes âgées, dernier stade, juste avant la mort, complètement lacérées d'escarres, de plaies profondes, avec qui nous n'avions plus aucun contact. Et j'étais effrayé le premier jour. J'avais envie de partir au pas de course et je me souviens toujours que mes parents disaient, ben, j'avais 18 ans, mais persévère, continue, il va peut-être se passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose, effectivement, vu qu'après quelques semaines, je me rendais compte que je m'étais attaché à ces personnes. Mais comment s'attacher à des personnes avec qui on n'a aucune relation? Et cet amour que je leur donnais, elle me le rendait à travers, vous savez, le regard. Le regard, c'est le miroir de l'âme. Je n'oublierai jamais ces lasers d'amour qui me regardaient, comme pour dire merci, moi aussi je t'aime, aime-moi. Et je découvrais à travers ces chairs brisées et blessées comme une perle au sein de toute personne, une perle inaltérable, lumineuse, qui transfigure même des chairs blessées et qui continue de nous donner de l'amour, même en fin de vie. Et au terme de ces vies, je sentais comme ces perles rouler entre les mains d'un plus grand. Il y a une perle au fond de chacun de nous. Je faisais étonnamment l'expérience de ce que les philosophes appellent de manière très compliquée, ce que j'ai encore pas très bien compris, l'âme, cette perle qui continue d'aimer, de prier et de recevoir de l'amour et qui fait que l'homme est éternel. Et une deuxième observation, c'était que dans un lit d'hôpital, au creux d'un lit, Tout homme est un enfant, qu'il soit directeur dans la société, qu'il soit au milieu ou au bas de l'échelle, qu'importe. Pourquoi l'homme est un enfant? Parce qu'au creux d'un lit, l'homme pleure comme un enfant. Il a besoin d'être consolé comme un enfant. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de hurler parfois parce qu'il a peur. Et je me disais, mais lorsque nos masques sociaux, lorsque l'on montre aux autres, même avec beaucoup de compétences, craquent, que reste-t-il de l'homme? Et surtout, aux portes de la mort, l'homme est un enfant. L'homme est un enfant. Et si l'homme est un enfant, c'est qu'il est en quête de parents. Il demande des parents. Et l'homme est un enfant de Dieu. Voilà, je découvrais l'identité profonde qui va de pair avec la perle. L'homme est un enfant qui crie, l'homme est un enfant qui veut vivre, l'homme est un enfant qui veut vivre toujours, l'homme est un enfant qui mendie de l'amour, qui mendie de l'amour. C'est pourquoi Thérèse, aux portes de la mort, va dire « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », parce que c'est cela la vérité de l'homme. Aujourd'hui, quelle est l'image de l'homme que nous présente la société, récupérée par les pubs? L'homme, le vrai, il a environ entre 20 et 35, 40 ans, il est bourré de compétences, on l'utilise, on le prend, on le met en avant, le portable collé sur ses oreilles, son attaché caisse qui le suit partout, cet homme reconnu, adulé, rétribué aussi pour ce travail qu'il fait, finalement un pantin au service de l'économie qui pense qu'il ne mourra pas, qu'il pense que la vie est dans cette immédiateté, qui pense que la vie s'arrête aux frontières de cette immédiateté qui l'enserre et qui font de lui parfois même un héros s'il a beaucoup de compétences. Mais que fait-on des autres qui n'ont pas de compétences, peu de compétences, au service de l'économie, mais je pense à un jeune qui a beaucoup de qualités de cœur. Et les qualités de cœur, n'est-ce pas l'essentiel? Et celui-là, on ne l'utilise pas, on ne le prend pas, on ne met pas à profit ses qualités de cœur. Il va rester en rade, en recherche, sombrant parfois dans la violence, dans la drogue, dans le chômage, en quête simplement de sens. Pourquoi je suis là? Cet homme qui est récupéré par les pubs, on montre que de la beauté, jusqu'à 40 ans à peu près. Après 40 ans, on est au moins récupéré par les pubs qui cherchent à vendre des pommades anti-vieillesse, des pommades anti-âge, lorsqu'apparaissent les premières rides. Mais lorsque nos visages tombent comme des concordes et que les pommades, malheureusement, ne font plus rien, qui sommes-nous réellement? Qu'est-ce que l'homme dans un lit d'hôpital? Qu'est-ce que l'homme aux portes de la mort? Cela voudrait-il dire qu'il n'existe plus? Qu'il n'est plus rien, mais qui est l'homme? Qui est l'homme? Alors que j'ai accompagné des fins de vie comme soignant, comme prêtre, où j'ai vu des rayonnements d'amour, autant chez la personne qui est en train de s'en aller que chez les personnes qui entourent la personne qui est en train de s'en aller, qui sont peut-être les plus beaux, les plus puissants d'amour, les plus puissants moments d'amour de toute une vie, dans ces derniers instants où on a envie de dire « je t'aime », où on a envie de dire « aimez-moi ». Qui est l'homme dans une chaise roulante? Qui est l'homme qui n'est plus efficace? Sommes-nous condamnés à être des machines efficaces ou des êtres humains appelés à la fécondité? Appelé à donner de la vie aux autres, on en manque tellement. Appelé à donner de l'amour aux autres. Regardez au fil des années qui passent, lorsque bien des choses disparaissent ou diminuent, comme la santé. Que reste-t-il entre 7 et 77 ans pour les amateurs des livres de Tintin? Est-il écrit au dos de ces livres, entre 7 et 77 ans, voire plus? Que reste-t-il de moi entre 7 et 77 ans si ce n'est cet être qui ne change pas, qui est toujours le même et qui a grandi, comment? Dans sa capacité de donner de l'amour, d'être sage, de donner de l'amour, cette intimité, il y a comme quelque chose en nous qui s'agrandit, qui croît au fil des ans où quelque chose diminue. C'est comme une roue, vous savez, qui tourne, qui s'use, mais dont le moyeu, le cœur ne s'use pas, ne change pas, et qui fait qu'au moment où la roue se brise, ce qui est à l'intérieur continue de vivre cette intimité, cette capacité d'aimer qui est faite pour l'éternité. « Je t'aime », c'est dire à l'autre « tu ne mourras pas », disait un écrivain dont j'oublie le nom en ce moment. « Tu ne mourras pas ». Parce que l'amour est le vœu de l'éternité. Et l'éternité est le vœu de l'amour. Voilà qui nous sommes. Et c'est saint Paul qui reprend cette idée en disant, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, « Plus l'homme extérieur va vers sa ruine, plus l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Mais que c'est beau! Que c'est beau cette révélation! Jusqu'au moment où l'être intérieur se sépare de l'être extérieur et s'en va vers le Seigneur. Thérèse va faire l'expérience de qui est l'humain, cet être profond, intérieur. Elle nous en donne une piste extraordinaire. Vous vous souvenez, si vous connaissez un peu l'histoire de Thérèse, Thérèse qui était une blessée de l'existence, une petite fille très fragile qui a beaucoup souffert de la mort de sa maman qu'elle ventousait parce qu'elle est venue au monde avec une hypersensibilité qui faisait qu'elle se roulait par terre en larmes quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, même si Dieu était bien planté dans son cœur. La mort de sa maman qui a été une chape de plomb, Thérèse va s'attacher à Pauline, sa grande sœur, sa seconde maman qui va aussi partir pour entrer au Carmel. Thérèse va développer toute une symptomatologie qu'on appelle en psychiatrie de l'enfant abandonné, de l'abandonnique, qui recherche de l'amour et en recherchant de l'amour cherche avant tout et tout le monde à rechercher continuellement de l'attention mais qui n'arrive plus et qui n'arrive pas à trouver sa liberté. Mais qui est Thérèse? On peut souvent réduire des personnes à leurs blessures, à ce qu'on voit d'elles, à leur caractère, à leur tempérament, à leurs failles, à leurs dérapages aussi. C'est un alcoolique, c'est un drogué, c'est une personne homosexuelle, c'est une personne divorcée, c'est une personne tant de souffrances. Mais qui est l'homme? Tout cela n'est-il pas voué un jour à disparaître pour qu'émerge qui je suis en profondeur, cet enfant aimé de Dieu? Alors Thérèse va découvrir qui elle est, c'est cette fameuse grâce de Noël 1886. Thérèse, toujours centrée sur elle, qui attend son petit cadeau de la part de son père. Elle entend son père se plaindre en disant « Mais Thérèse a 13-14 ans, mais enfin j'espère que c'est la dernière année. » Sous-entendu que cette petite fille ventouse toujours cette affectivité, qu'elle n'arrive pas à trouver son équilibre. Et sa sœur Céline dira « Mais Thérèse est un bébé à 14 ans. » Complètement prisonnière de son immaturité affective. Et Thérèse va faire une expérience forte. Cette nuit de Noël 86, et je paraphrase ce qu'elle va vivre durant cette nuit de Noël, où elle parle soudainement de torrents de lumière, de torrents d'amour qui vont couler dans sa vie, dans son cœur. Qu'est-ce qui va se passer ? Je rappelle que nous sommes à une époque marquée par le jansénisme. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu éloigné à qui on doit rendre des comptes. Pour être sauvé, il faut faire des sacrifices, il faut se sacrifier. Mais il n'y a pas d'amour dans cela. Les enseignements livrés aux enfants qu'on prépare à la communion sont terribles. Lorsqu'on compare l'âme à une colombe toute blanche qui, à un moment donné, tombe dans la boue, qui va devenir noire de boue par le péché et qui ne peut plus décoller de cette boue, ce péché horrible qui vous englue. Voilà un exemple d'enseignement que Thérèse entend. Et il va se passer quelque chose dans le cœur de Thérèse. Thérèse n'est pas libre. Et elle va découvrir qui est Dieu cette nuit-là. Que Dieu n'est pas ce Dieu-là. Que Dieu n'est pas le Dieu de la culpabilisation. Que Dieu est le vrai Dieu qui descend libérer son peuple. J'ai vu mon peuple en Égypte, dit Dieu dans le buisson à Moïse. J'ai entendu son cri, ses plaintes sont montées jusqu'à moi et je suis descendu pour le délivrer. Dieu, vous savez, est assez grand pour agir au-delà de tous ses enseignements. Et je pourrais dire que, j'en témoigne, j'ai une maman qui a été élevée un peu dans cet esprit-là, mais dans lequel elle n'y est jamais rentrée. Et si je suis prêtre aujourd'hui, c'est certainement grâce à elle, parce que dans mon éducation, elle m'a toujours transmis l'amour de Dieu. C'est ma mère qui m'a transmis l'amour de Dieu. Je n'ai jamais vécu des culpabilisations, ce Dieu à qui on doit rendre des comptes, grâce à ma mère. Et je lui dois beaucoup. Et c'est vrai ce que dit le curé d'Ars, Saint curé d'Ars, l'amour de Dieu passe directement du cœur de la maman dans le cœur de son enfant. Ça, c'est très beau. Et c'est ce que Zélie Martin aussi a transmis à Thérèse, mais c'est encore en germe, c'est dedans, c'est tout petit. Thérèse est encore tellement blessée, et il faudra un petit miracle. Et en cette nuit de Noël, voilà ce qui va se passer, là je paraphrase, Thérèse est faible. Elle vient de sortir d'une dépression nerveuse, j'en parlerai cet après-midi. Elle est bourrée de sentiments de culpabilité qu'on appelait avant le scrupule. Cette petite pierre pointue qui sans cesse nous pique et qui nous fait croire qu'on est toujours coupable, qu'on a toujours tout fait faux, qu'on a toujours dit mal, enfin, etc. Thérèse, elle est rongée par le martyr des scrupules, dira-t-elle. Il faut avoir passé par ce martyr des scrupules pour comprendre quelles souffrances ils engendrent. Et Thérèse se sent faible. Elle n'a plus rien à donner à Dieu que sa faiblesse, mais elle va faire une découverte dans la crèche. Dieu est un enfant. Je reviens à l'enfant. Ah bon ? Mais si Dieu est un enfant plein de faiblesses, il est comme moi. Tiens, Dieu est comme moi. Mais pourquoi est-ce que j'aurais peur de Dieu alors ? Si Dieu est comme moi, s'il me ressemble tellement, pourquoi n'aurais-je pas peur de m'approcher de lui, un enfant ? Qui aurait peur d'un enfant ? Et Thérèse, en cette nuit de Noël 86, va s'identifier à l'enfant de la crèche. Il va y avoir une communion tellement profonde, tellement extraordinaire. En quelque sorte, elle va devenir Jésus. Elle va devenir Jésus. Jésus, c'est moi. Moi, c'est Jésus. C'est extraordinaire. Et en s'identifiant à l'enfant, elle va communier. À qui ? À Dieu. Parce que cet enfant, c'est Dieu. Et en osant s'identifier à l'enfant de la crèche, elle va en recevoir dans son cœur toute cette force, toute cette puissance divine, qui alors illustre bien ce que dit saint Paul, 2 Corinthiens 11 et 12, il faut lire ces deux chapitres. « Je peux tout en celui qui me rend fort, quand je suis faible. » C'est alors que je suis fort. Parce que la faiblesse de Thérèse, au contact de la faiblesse de Dieu, va devenir la force de Dieu en elle. Dieu ne nous dit pas de rester faible. Hein. Des fois, il faut faire attention. On n'a pas à faire une religion de la mollesse, de la faiblesse, mais de la force de Dieu qui passe notamment par l'accueil de nos faiblesses. Et Thérèse va dire tout simplement en un mot, « Je sentis cette nuit-là la charité divine, l'amour fou de Dieu, entrer dans mon cœur. Et je sentis en moi le désir de faire plaisir aux autres et de m'oublier moi-même. Et dès lors, je fus heureuse. » Vous sentez la faiblesse qui devient force. Ça se passe en un moment, en quelques minutes. Thérèse va retrouver cette force d'âme qui va lui donner de faire des pas de géant. Dans la confiance en cet amour qu'elle vient d'expérimenter en ce Dieu de miséricorde, et des pas de géant dans la charité, ce désir de m'oublier moi-même pour faire plaisir aux autres. Et c'est ça, la béatitude, et elle entre dans la béatitude. D'où le nom Thérèse de l'enfant Jésus. Mais cet enfant, c'est nous, c'est moi. N'ayons pas peur de regarder l'enfant et de se dire, j'ai le droit d'être faible, petit, pécheur. Voyez, Jésus ne s'intéresse pas à notre péché, c'est pardonné. Saint Paul dit que le Christ a payé. Ok, le ciel nous est ouvert. Ce qui fait mal au cœur de Dieu, c'est que ses enfants sont dans une détresse. Dans une détresse. Dieu s'intéresse à notre détresse. voyez, comme pasteur, moi, quand je rencontre des gens, je ne vais pas commencer à leur parler du péché ou à leur dire ce qu'ils doivent faire ou comment ils veulent faire. Comment ils doivent faire, il faut rencontrer des personnes. Il faut entrer dans leur histoire. Il faut sentir une détresse. Leur faire sentir qu'on les a compris. Leur faire raconter leur peine. Puis à partir de là, être ce visage de Jésus qui leur dit ben, « On va chercher ensemble un chemin. Pourquoi tu es dans la détresse ? Peut-être que cette détresse où tu es, c'est dû à quelque chose que tu as mal fait, à un péché ou à une blessure qu'on t'a faite. » Voyez, puis on va chercher avec la personne les moyens de guérison, les moyens d'avancer. Et alors la personne elle-même prendra conscience sous le regard de l'amour de Dieu, de la miséricorde, ce que c'est que le péché. Ce qui est premier, ce n'est pas le péché, c'est l'amour. Je ne peux pas prendre conscience de mon péché si d'abord je ne me sens pas aimé de Dieu et aimé des autres. Et dans l'amour, je dirais, Seigneur, j'ai compris que cette détresse, elle est due à quelque chose qui est faux dans ma vie. Et je te remets mon péché parce que toi, tu l'as déjà pardonné. Mais tu attends juste que je te le donne, que je te le confesse. Et je sais que c'est pardonné. Voyez pourquoi Thérèse va s'appeler, c'est son deuxième prénom, Thérèse de la Sainte Face. Il y a à la fois l'enfant, mais l'enfant blessé qui est en nous. L'enfant blessé par toutes les blessures de la vie, l'enfant blessé par notre péché. Et Thérèse de la Sainte Face fait référence à Jésus crucifié. L'enfant, c'est le crucifié. 30 ans plus tard, mais il n'y a plus d'espace, de temps, d'espace historique entre l'enfant et la croix. Cette croix qui nous fait peur, qu'on rechigne. Le monde aujourd'hui, vous savez, il veut éliminer tout signe chrétien parce qu'il y a la croix. Parce que la croix, ce n'est pas l'homme des pubs, ce n'est pas l'homme des pommades anti-âge, ce n'est pas l'homme compétent qui est adulé pour être rejeté après 20 ans, peut-être. La croix, c'est l'homme. C'est la vérité ultime de l'homme. Nier la croix, c'est se nier soi-même. Nier la croix, c'est nier l'homme dans ce qu'il est en vérité. L'homme que nous projette la société, c'est un homme qui ne mourra jamais. C'est un homme dont la vie ne dure que 20-30 ans lorsqu'il est au sommet de sa gloire, mais c'est un mensonge. C'est un homme privé où on ne s'intéresse pas à sa capacité d'aimer, à son besoin d'être aimé. Mais l'homme, dans sa vérité, c'est aussi l'homme qui est compétent, c'est aussi l'homme qui se réjouit, c'est aussi l'homme qui réussit, mais c'est l'homme blessé aussi. C'est l'homme pécheur, c'est l'homme qui a la capacité aussi de se faire du mal et de faire du mal. C'est l'homme mortel, c'est l'homme qui demain peut disparaître. Et la croix nous montre tout cela. La croix nous dit qui est l'homme. C'est ce que dit Pilate à la passion de Jésus, « Voici l'homme ». Un homme complètement lacéré par la violence, mais un moment après, voici votre roi, l'homme revêtu de la chape de pourpre, l'homme revêtu de l'amour, l'homme blessé, mais qui nous dit, je vous aime bien plus fort que toute blessure, que tout péché, car je suis déjà vainqueur, je suis déjà ressuscité, je suis déjà dans la gloire. Alors qu'est-ce que je vois quand je regarde une croix ? Je vois mes blessures, je vois mon péché, je vois mes détresses, mais je ne suis plus seul. Car au lieu d'être seul, au lieu d'être centré sur des blessures que je vois en moi, Jésus les a prises, je les vois, sur l'amour. Vous savez, quand on se regarde dans le miroir le matin, tout ébouriffé ou mal rasé pour les hommes évidemment, on n'est peut-être pas très beau à voir, ou si on a mal vécu la journée précédente, le miroir nous renvoie à l'être pitoyable que je suis. Mais ce même être pitoyable qu'il se ressent tel lorsqu'il regarde la croix de Jésus, lorsqu'il croise son regard, il se retrouve beau, lavé, aimé. Parce que en regardant la croix et en me voyant tel que je suis dans ma vérité ultime et d'être mortel, Jésus me dit « Je t'aime, je te sauve, je te ressuscite ». Comprenez pourquoi la croix est l'homme dans toute sa vérité. La croix, quand je tombe sur le chemin, je trouve Jésus par terre. Quand je sombre au fond du gouffre, le gouffre n'est pas vide. Je tombe dans les bras de Jésus. On ne peut tomber plus bas que dans les bras de Dieu, dit sainte Thérèse. Voyez-vous, c'est tout cela. La croix, c'est un signe réaliste. C'est un signe. C'est pourquoi on en fait des œuvres d'art. Des œuvres d'art, imaginez-vous un cadavre qui est devenu une œuvre d'art. Pourquoi ? Parce que la croix, c'est du pur amour. C'est une lumière dans un ciel sombre. Et Thérèse va vouloir vivre la croix parce qu'il y a perçu cet amour puissant de Dieu d'abord pour elle. Et elle veut rester au pied de cette croix pour recueillir cette rosée divine, dit-elle, qui tombe du cœur de Jésus et que personne n'est là pour la recevoir. Elle veut recueillir cette rosée divine pour la répandre sur les âmes, recevoir cet amour qui la remet debout et distribuer cet amour par son engagement de carmélite. Thérèse a compris qui elle est en profondeur et qui est l'homme. Romains 8, 14, 17, pour moi c'est un texte révélateur. Qui est l'homme ? Et saint Paul répond par ces termes. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous lie à la peur. Je traduis avec mes mots. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous lie à la peur de la loi, à la peur du regard des autres, à la peur de ce qu'on attend de vous, à la peur du personnage idéal que vous vous êtes fabriqué parce que toujours vous avez peur et vous avez toujours peur. Vous avez peur de Dieu, vous avez peur des autres, vous avez peur de mal faire. Suffit avec tout cela. Vous avez reçu un esprit d'amour. Et dans cet esprit d'amour, vous pouvez regarder Dieu droit dans les yeux et lui dire « Abba, Père ». Voilà qui est l'homme. L'homme, mon identité profonde, c'est d'être un enfant de Dieu qui peut vivre sans peur, qui peut vivre dans la confiance, qui peut vivre dans l'abandon, dans cette certitude d'être aimé de Dieu, dans cette certitude de la résurrection. Voilà qui est mon identité profonde, identifiée à Jésus. Et qui est l'homme ? Qu'est-ce que la morale chrétienne pour cet homme-là ? Je garde toujours ce passage de saint Paul. La morale, vous savez, ce n'est pas « fais ceci, ne fais pas cela ». La morale chrétienne est un dialogue avec Dieu. Regardez Dieu droit dans les yeux en lui disant « Abba, Père ». La morale, c'est quand je me retrouve dans une situation difficile, X ou Y, et je vais vers Dieu. Qu'est-ce que je fais avec ça, Père ? Et le Père me dit « si tu veux bien, on va dialoguer ensemble ». Pour chercher ensemble le meilleur chemin pour toi. C'est ce que dit le pape, en fait. Il ne faut pas imposer aux personnes toutes sortes de doctrines, de lois, aussi chrétiennes et ecclésiales soient-elles, non. Il faut dialoguer. Chacun a une conscience et est capable de prendre la bonne décision dans une morale du dialogue. Du dialogue, c'est ça, vous savez, la pastorale, être pasteur. Alors ce dialogue va se faire aussi en l'éclairant par la parole de Dieu, par l'enseignement de l'Église, mais au bout du compte, c'est la personne qui va trouver son propre chemin. Comme pasteur, je dis toujours aux gens, si tu veux, on va dialoguer pour comprendre ton problème et chercher ce qu'il y a de mieux pour toi. Voyez, c'est cela. Et puis ensuite, il faut aller chercher l'éclairage. Un pasteur n'arrive pas vers les autres comme ça, en supérieur. Qui possède la vérité. C'est quoi la vérité ? La vérité dans les évangiles, c'est Jésus qui s'assied sur la margelle du puits de la Samaritaine et qui, lui, fils de Dieu, lui dit « J'ai besoin de toi, mais que c'est grand. » Cette Samaritaine qui était à son sixième mari et Dieu lui dit « J'ai besoin de toi, donne-moi à boire, mais que c'est beau. » C'est ça, voyez-vous, l'approche chrétienne. Il n'y a pas de rigidité. Et puis ensuite, on va susciter la confiance. Et face au problème de cette Samaritaine, Jésus lui dira « Si tu savais le don de Dieu qui est en toi, mais si tu savais ». Et elle va être à l'écoute de ce don de Dieu, de cet amour fou. Le don de Dieu, c'est Romains 8. Vous avez reçu un esprit d'amour. Vous pouvez parler avec Dieu, avec votre Père. Et dans ce dialogue, elle va trouver où est son problème. Elle va trouver elle-même où est son problème. « Je n'ai pas de mari. Ben, Jésus lui dit, c'est vrai, tu as ton sixième, enfin, etc. Jean 4, vous pouvez lire le texte, si on va aller vers la vérité tout entière, mais avec une douceur tellement extraordinaire, dont le pape François est une illustration éloquente de cette tendresse qui conduit à la vérité tout entière, voyez-vous. C'est cela la pastorale, moi c'est cela que Thérèse m'a appris. Matthieu 25, vous savez, ce beau texte où Jésus nous dit... J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais soif, j'avais faim, vous m'avez donné à boire, à manger, vous m'avez visité. C'est vrai, quand on lit ce texte, on a toujours la tentation de se dire, mais le pauvre qui est Jésus, tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ce que veut dire ce texte, c'est il faut faire du bien aux pauvres, il faut les vêtir, il faut leur donner à manger, mais on a raté un échelon. Vous savez, on est très moralisateurs, nous les cathos. On commence toujours par la morale, c'est dommage, c'est pas l'évangile ça. Qui est ce pauvre qui a tellement faim, tellement soif? C'est d'abord moi-même qui ai tellement faim et soif de reconnaissance, de considération, de pain, d'être visité, d'être aimé. Je suis ce pauvre blessé comme Thérèse. Le pauvre, c'est d'abord moi. Si je ne fais pas l'expérience du pauvre que je suis, je ne vais pas rencontrer Jésus. Ou je resterai à l'enfant de la crèche et je n'irai pas jusqu'à l'enfant de la croix. Et je refuserai que Jésus vienne sauver une partie de ma vie. Si je n'ai plus peur de Dieu et que je puis faire l'expérience de mes propres faiblesses, Dieu va pouvoir me visiter. Et je vais prendre conscience de l'importance de la miséricorde pour moi. Et vous savez, pour paraphraser le bon samaritain, ce très beau passage d'évangile, je dirais que pour aller ramasser d'autres sur le bord du chemin, il faut avoir été ramassé soi-même. Sinon, on ne peut pas comprendre les autres. Et c'est ça l'expérience de la croix. C'est l'expérience de ma pauvreté visitée pour que je puisse aller visiter la pauvreté des autres comme un frère et non pas comme un supérieur qui sait tout. Et là, j'aurai suffisamment de tendresse pour l'accompagner. Ça, c'est très important parce que sinon, on fait du mal aux gens, on les blesse. Prendre conscience que je suis cet être blessé, pécheur, pour faire l'expérience efficace de la miséricorde. C'est tout ça l'expérience de Thérèse. Et vous savez, cette identité profonde, elle est importante dans notre siècle de confusion, où on réduit les gens à leurs problèmes. Je reviens du Brésil, et c'est terrible, là-bas, la théorie du genre a imprégné toutes les masses, cette théorie qui dit qu'on n'est pas au départ un garçon, une fille, on le devient par un libre choix. Vous connaissez cette théorie du gender. C'est moi qui choisis d'être garçon ou fille. Et ça lance une telle confusion après dans l'identité sexuelle des personnes. Cette théorie qui est la parfaite illustration d'un grand manque d'aujourd'hui, c'est un manque du père. L'affaiblissement du père dont le rôle est justement de confirmer son enfant dans son être d'homme, de garçon, de fille. Et celui qui va confirmer qui je suis, qui se réjouit de l'existence de ma vie et d'être un garçon ou une fille, c'est d'abord Dieu le Père. Vous voyez, quand on a enlevé Dieu de la vie, on est dans la confusion, jusque dans notre être et notre orientation sexuelle. Dieu le Père, saint Paul rend grâce, Éphésiens 1, il rend grâce à Dieu notre Père qui, dès avant la création, nous a choisis, aimés et élus et nous a voulu dans le bien-aimé. Et je rajouterai comme garçon ou fille. Voyez-vous, en renouant avec Dieu notre Père, en entrant en dialogue avec lui, je pense et je l'expérimente dans ma vie de pasteur que ça peut être un chemin de guérison pour se trouver soi-même. À partir de cette identité profonde d'enfant de Dieu, pour cesser justement de réduire les gens à leur orientation sexuelle ou à leur dérapage ou à que sais-je encore. Je prends un exemple, mon évêque m'a confié justement le ministère auprès des personnes homosexuelles, surtout des jeunes qui se découvrent ainsi, et comme ça les aide quand je leur dis « mais tu n'es ni homo ni hétéro, tu es d'abord enfant de Dieu ». C'est là ton identité, c'est là que Dieu t'aime. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Comment tu aimes les autres? Quelle est ta créativité? Comment tu aimes la vie? Il faut partir de là. de cette identité profonde qui va éclairer ensuite tout l'être et qui va l'aider à trouver son chemin. On a tellement besoin aujourd'hui de trouver qui l'on est, et je pense que l'on peut se trouver qu'à partir de ce dialogue avec le Père. Thérèse a trouvé son identité profonde qui est d'être Thérèse de l'enfant Jésus, l'enfant, et Thérèse de la Sainte Face. Elle nous conduit à l'identité profonde en découvrant le petit enfant que je suis. Et je vous livrerai un beau témoignage que j'ai vécu en Belgique entre Noël et Nouvel An. On m'a invité à prêcher à des ados. Moi, c'est un public que j'aime beaucoup, les ados. Vous savez, ils sont un peu foufou, ils sont entre deux, un peu comme moi, vous savez, je suis des fois un peu aussi foufou comme ça. J'aime bien, voilà, j'aime bon. Et quand je suis arrivé là, dans la communauté, on m'a dit « Oh, on a beaucoup prié pour vous ». J'ai dit « Ouais, pourquoi ?» Parce qu'on ne vous a pas dit, c'est tous des ados à problème, ils viennent d'institutions. J'ai dit « Mon Dieu, pourquoi on ne m'avait pas dit ça avant ? J'aurais préparé autre chose, quoi. » Ah, ils m'ont dit « On va prier pour vous, vous allez voir, vous allez vous adapter. » Puis je rencontre un premier petit ado, je lui dis « Salut, ça va la vie ?» Il me dit « Je la hais. » Bon, eh ben, il a donné le ton à toute la retraite, d'accord. Bon, ben, faudra que je prépare peut-être autre chose. Et dans la première intervention, je leur ai parlé, c'est leur réalité de la maltraitance, des abus sexuels. J'ai écrit un livre là-dessus qui aide beaucoup, Les larmes de l'innocence. On a tellement peur de parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'il est tabou. Mais si on n'en parle pas, on n'aide pas les gens. Il ne faut pas seulement en parler. Il faut proposer des pistes pour aider les gens qui ont vécu cela. Et vous savez, je reviens du Brésil, moi je vous dis, le 80% de la population a subi des abus sexuels dans les familles. Je peux vous dire, j'en témoigne. Mais il règne une sorte d'omerta, personne n'en parle. Et c'est un peuple qui a besoin qu'on en parle pour trouver des chemins de reconstruction. Si on ne propose pas des pistes, comment les gens vont se reconstruire si, face à ce sujet, on a peur et on se replie sur soi, on ne veut pas en parler? Comment on va aider les gens? Moi, je suis d'abord un pasteur, je veux aider les gens. Enfin bref, je parle de tout ça à ces petits gars et filles entre 13 et 18 ans. Je voyais vraiment des yeux qui étincelaient. Je me disais, ouf, merci Seigneur, tu es vraiment là pour les petits, quoi. Vous savez, de ces petits gars, filles complètement hyperactifs, et là, ça bougeait pas. Ça bougeait pas, et je leur ai parlé des blessures, puis comment Dieu les aime, justement parce qu'ils sont blessés. Il y a un petit gars de 13 ans, Renaud, qui vient me dire à la fin, vous savez, tout ce que vous avez dit, moi je l'ai vécu, j'étais maltraité, mes parents ne m'aiment pas, ils m'ont mis en institution, puis que je suis en institution, ça va mieux, mais vous savez, moi je les aime, et je les aimerai toujours pour qu'ils comprennent qu'un jour je les aime, même si ça met 20 ans, 13 ans le petit gars, j'étais complètement bouleversé, puis il m'a dit, vous savez, ma maman m'a dit qu'avant même de dire maman, j'ai dit Jésus, et pourtant je ne suis pas baptisé. Je ne connaissais pas, moi, qui est Jésus. J'aime leur dire, mais comment tu as fait avec ce Jésus? Ben, pour moi, c'était quelqu'un que je sentais à l'intérieur. Je l'appelais Jésus, c'était un ami qui m'aidait. Impressionnant. Comment Dieu, voyez, va réveiller chez un petit pauvre l'identité profonde. Et là, il m'a dit, ben, quand je suis allé à l'école, j'ai entendu parler pour la première fois de Jésus. Et moi, j'ai dit, mais madame, c'était une catéchiste, vous savez, je le connais, c'est mon ami. C'est extraordinaire. Voyez comment Dieu travaille mieux que nous. Des fois, dans l'Église, on a un petit peu, on croit qu'on fait mieux que Dieu. Voyez, on veut tout planifier, on veut dire les choses. Mais Dieu, il travaille mieux que nous. Et devant ce petit gars, je lui ai dit, on est vraiment nuls les prêtres par moment. On veut tellement faire de choses. Puis Dieu est fait mieux. C'est un peu frustrant de dire que Dieu est fait mieux que nous. Je suis quand même prêtre. Il pourrait quand même passer par moi. Ben non, il fait mieux que moi. On est tellement nuls des fois, je lui dis. Et il me dit, mais non, vous n'êtes pas nuls. Vous savez, on a besoin de vous. Mais quand Jésus agit directement, ça va plus vite. Ça va mieux que vous. Ah bon, tu me rassures quand même. Et vous savez, cet enfant, il m'a donné tout le fil rouge de la retraite. Voyez, l'identité profonde. Il m'a tout donné, il m'a orienté. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais tellement bouleversé par ce que j'ai vécu avec ces ados à problème, qu'un livre a jailli de mon cœur. pour le dire. Ça m'est venu, mais vous savez, comme ça. Et je l'ai écrit en 2 semaines. C'est ce livre qui s'appelle ici « Quand nos blessures diffusent la lumière ». Quand nos blessures diffusent la lumière, il a seulement 94 pages, mais voilà, j'ai eu besoin de dire, de parler de la faiblesse qui devient puissance et force de Dieu. Et Dieu ne peut passer efficacement qu'à travers ces petits de la vie. Et ce petit, si nous acceptons de l'être. Alors je terminerai, parce qu'il faut terminer, vous imaginez bien, par une poupée que j'amène partout avec moi. C'est une poupée russe. Une poupée russe à 5 poupées. Pour vous faire comprendre un petit peu cette identité profonde, puis comment il faut regarder les personnes. Il faut les regarder comme on regarde un enfant à l'intérieur. Vous savez, encore une fois, on est tous des enfants. Et quand un jour tout va craquer, eh ben, comme je vais faire craquer ma poupée russe en bois, bien sûr, pas de chair. Je ne ferai jamais craquer une poupée de chair. Voilà. Alors, vous avez 5 poupées dans cette poupée. Vous avez la première poupée qui est l'être extérieur, tel que je me vois, qui soigne ses apparences, son look, qui voudrait adopter les gestes et les attitudes qui conviennent, qui voudrait correspondre à ce que l'entourage veut de moi. Et c'est important dans les consensus sociaux, mais quand même, des fois je peux me confondre à cet être que je montre, où je peux juger aussi les autres à ce qu'ils montrent de leur être. Mais voyez-vous, si je dévisse cet être, il est vide. Il est important, mais il est vide. Il est vide. Donc il ne faut pas y mettre trop d'importance. On arrive au deuxième être qu'on trouve à l'intérieur, qui représente en fait tout ce que je montre pas, tout ce qui apparaît parfois, c'est-à-dire mes réactions visibles, cachées, tout ce qu'on appelle émotion, sentiment, pulsion, impulsion, angoisse, colère, attrait, sentiment amoureux, peur, fuite, enfin, etc. Tout ça mène des émotions dont on parle tellement aujourd'hui, avec deux parties très importantes, nous dit la psychologie moderne, qu'on appelle l'affectivité. C'est cette puissance en nous qui nous conduit vers les autres, à quémander de l'amour, à donner de l'amour. Mais l'affectivité sentimentale, émotionnelle, c'est surtout de vouloir prendre l'amour des autres. L'émotivité, c'est un moment qui passe. Si on croit qu'on aime, quand on est, comme je dis aux ados, quand on est attiré et amoureux, c'est encore pas l'amour. Ça, c'est du sentiment. Je leur parle souvent de l'amour chewing-gum. Je leur dis, quand on est amoureux, c'est l'amour chewing-gum. On colle, on se lèche, on envoie souvent au bout du trottoir, d'une rue, d'une cour d'école, et ça y va, et c'est le grand amour. Et une semaine après, il y a tout qui casse, il y a les fils du chewing-gum qui nous courent après, qui nous ligotent. Alors c'est les immenses chagrins d'amour, puis ensuite on va coller à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que le chewing-gum a perdu de son arôme, et on se décolle, et on comme ça. C'est l'amour sentimental, je leur dis. Il faut passer de l'amour chewing-gum à l'amour volley-ball. Vous savez, volley-ball, il y a une juste distance, il y a le filet, puis il y a un échange de balles. L'amitié, c'est échanger la balle. On ne se touche pas, on se respecte, on se connaît comme bon ou mauvais joueur. On prend le temps de s'apprivoiser. Vous voyez, tout cela, ben, ça fait partie de ce deuxième être à la fois affectif puis agressif. L'agressif est une énergie aussi positive qui nous structure, qui nous donne d'avoir de la personnalité, d'avoir une parole forte, d'être respecté aussi. Il y a de bonnes colères, vous savez, il n'y a pas que de mauvaises colères. Quand on nous agresse, ben, il faut se défendre, c'est une bonne colère. Quand on entre dans l'injustice, la colère nous fait sortir de l'injustice pour agir, ou refuser l'injustice. La colère nourrit aussi le courage d'aller jusqu'au bout. Mais voyez, si on s'arrête à l'être affectif, à l'être agressif, bah, c'est pas suffisant, parce que si c'est une partie importante de notre être, ou qui peut aussi manifester une orientation sexuelle, on trouve aussi le fer de lance de l'affectivité, c'est la sexualité. Mais voyez, si on s'arrête à cet être-là, c'est pas suffisant parce qu'il est vide. Donc tout cela, l'être sensible, émotionnel, c'est un moment, une partie importante de l'être, mais ce n'est pas suffisant pour dire qui je suis. Alors, vous voyez, parfois je peux m'arrêter à mes émotions, mes sentiments, beaucoup souffrir. Je suis plus que ça. Alors, l'être que je suis, par ses émotions, par ses sentiments, je prends le troisième, il va se protéger. Très tôt, le petit enfant bâtit ce qu'on appelle des mécanismes de défense contre l'angoisse, parce qu'il a peur pour se protéger des réactions des autres. Ça, je vous en parlerai aussi durant ce week-end, ce qu'on entend par mécanisme de défense. Ça peut être l'agressivité, ça peut être la fuite, ça peut être... Il y a tellement de mécanismes de défense qu'on met en place. Ça peut être le déni, parce qu'on a peur d'aborder le vrai problème. Ça peut être la mythomanie, on se forge un personnage pour éviter de connaître le personnage que je suis réellement, parce que ça serait source d'angoisse. On peut sombrer dans la mégalomanie, on peut sombrer dans la tête dans le sable, comme on dit aussi, on peut fuir. Tous ces mécanismes de défense qu'on met en place pour se protéger et qui vont handicaper la relation. Et on peut se juger justement à travers ces mécanismes de défense dont le péché peut se servir. Et on peut faire du mal aux autres parce qu'on veut se protéger, parce qu'on a toujours l'impression que l'autre est un ennemi potentiel. Alors on peut aussi juger les autres à travers leur mauvais caractère, à travers leurs réactions négatives, mais ce n'est pas suffisant. L'être, c'est encore pas cela. Vous savez, je dis souvent, on peut avoir un caractère de cochon, mais un cœur d'or. Il ne faut pas s'arrêter au caractère de cochon. Il faut aller plus loin, parce que cela, ce n'est encore pas le tout de la personne. Voyez, c'est vide. On arrive au quatrième être, qui est cet être humain. Vous savez qu'il paraît qu'on descend de l'arbre, l'homme descend du singe, mais il y en a qui ne sont encore pas descendus de l'arbre, et parfois il y en a qui y sont remontés. Alors, c'est toujours bien de descendre de l'arbre pour être un être humain, capable de penser, capable de réfléchir, capable de comprendre les autres et de se comprendre. Et ce quatrième être, c'est déjà l'être spirituel qui aspire à l'amitié, qui aspire au pardon, à la réconciliation, qui veut donner de l'amour, recevoir de l'amour, ce qu'on ne trouve pas chez l'animal. Les instincts, les sentiments, les pulsions, on trouve ça chez l'animal. Mais là, on n'est plus dans la simple animalité. On est dans ce qu'Aristote appelle l'animal raisonnable, capable d'amour, capable de réflexion, capable de sagesse, capable de Dieu aussi. Tant qu'on n'a pas trouvé cet être-là, qu'on vit dans les petits bonheurs sensibles immédiats, le cœur est vide. On parlera cet après-midi de dépression existentielle. Aujourd'hui, la société nous donne tout pour satisfaire nos besoins émotifs, pulsionnels, émotionnels, sensibles. On nous dit, le bonheur, c'est ça. Regardez les pubs. Si vous avez le dernier iPhone, le 8, je crois, moi, j'ai encore au 5. Bon. Enfin, je ne veux pas faire de la pub, excusez-moi, hein, ne l'achetez pas encore, parce qu'il est très cher. Hein. Ben, voyez, on vous dit, c'est le bonheur parfait dès que vous aurez votre iPhone 8. Mais c'est un mensonge, ça va donner un bonheur immédiat, sensible, affectif, mais le cœur reste vide. L'homme intérieur, celui-ci, qui a tellement besoin de donner de l'amour, aussi de s'intéresser aux autres, il va être vide. Et c'est le pape François qui dit « aimer ». Ce n'est pas seulement éprouver du plaisir face à l'autre, mais c'est vouloir lui faire du bien. L'être sensible, il ne peut pas vouloir faire du bien. Il prend l'autre pour se faire du bien. C'est l'amour chewing-gum, si vous voulez. L'être spirituel, il veut faire du bien à l'autre. Vous voyez, il y a un passage. Et depuis ce jour-là, dit Thérèse, je suis heureuse. Quand je décidais, sentir en moi le désir de faire plaisir aux autres, ouais, l'aide spirituelle. Mais cet être spirituel, ce n'est pas suffisant. On peut vivre le grand amour et le vrai jusque dans le mariage, mais être toujours en manque de quelque chose. L'être n'est pas achevé tant qu'il n'a pas rencontré son enfant intérieur, vous entendez ? Et il est plein. Et je tape sur ma tête qui est parfois vide, mais vous voyez, l'enfant intérieur, il est plein. Voilà l'identité profonde, c'est la source de cette quête d'amour qui va aller jusqu'à Dieu. C'est la source de notre aspiration à Dieu. C'est la source de notre aspiration au bonheur. C'est l'enfant intérieur, l'enfant de lumière, qui un jour voyé à la mort, sera remis entre les mains de Dieu. Tout le reste, ça reste dans la tombe. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Est-ce que vous avez découvert votre enfant intérieur? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce que votre cœur vit? Vous savez, souvent en pastoral, quand les gens me disent « voilà, je vis ceci ou cela, est-ce que c'est juste, je ne suis pas satisfait », je leur pose toujours la question, mais dans le fond, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est comme ça qu'on approfondit. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que veut ton cœur? Jean 5, vous savez, il y avait ce paralytique au bord de la piscine qui n'était pas jeté dans l'eau au moment où l'eau bouillonnait. C'est une croyance populaire qui disait qu'il y avait un ange qui passait à un moment donné, qui agitait l'eau, et il y avait une guérison. Il était là, et depuis tant d'années, il attendait. Et quand Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et il répond « Je n'ai personne pour me plonger quand l'eau bouillonne. » Et là, c'est la réponse à notre question d'aujourd'hui. « Je n'ai personne, je suis seul. » C'est ça la maladie aujourd'hui, je suis seul. J'ai personne qui pense à moi, qui prend soin de moi. Voilà le cri de l'enfant intérieur. Mais qui je suis? Et Jésus est la réponse, je suis quelqu'un qui va prendre soin de toi. Lève-toi et marche, prends ton grabat. Tu vas retrouver tes pieds dans la vie, un sens à la vie. Vous savez, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour vivre, mais a-t-on une raison profonde de vivre? C'est le cri de l'enfant intérieur. C'est le cri de l'enfant de la crèche. C'est le cri de la croix. J'ai soif de te donner à boire. J'ai soif de donner un sens à ta vie. J'ai soif de visiter en toi tes propres blessures, ce qu'il y a de plus profond, ce qui est en attente. Puissions-nous, à travers la prière de Thérèse, rencontrer notre petit enfant et le conduire à Dieu. Merci.